Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler du 22 mai et de l'esclavage de manière globale, parce que au moment où dans notre pays, où tout le pays s'apprête à, disons, fêter l'esclave romain, il est bon de parler de toute cette situation, mais il est bon aussi surtout d'éclairer sur un débat qui est très actuel, qui est celui de savoir quelle est véritablement la place du 22 mai dans toutes ces questions qui sont liées à l'esclavage. Et vous êtes historien, vous avez écrit sur ces questions 3 ou 4 livres dont on pourra parler pendant notre entretien, et vous avez étudié cette question pendant des années et sur peut-être 100 ou 150 livres que vous avez étudier profondément pour pouvoir nous parler de ces questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a principalement à dire sur la question du 22 mai ?
Moi, sur la question, je ne sais pas spécialement sur la question du 22 mai, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'abolition de l'esclavage à la Martinique. À mon avis, l'esclavage a été aboli à la Martinique comme dans les colonies françaises avec le décret du 27 avril, plus exactement encore. Pour ce qui nous concerne, nous, ça a été que à partir de l'arrivée à la Martinique, de la nouvelle de ce décret du 4 mars, c'est-à-dire bien avant le 22 mai 1848, disant que nulle terre française ne pouvait plus porter d'esclaves. On a connu cette nouvelle à la Martinique à partir du 25 mars. Il y a eu des affiches publiques à partir du début avril, le 5 ou le 6 avril, une proclamation Husson, qui était un directeur de l'intérieur, qui annonçait que bon, l'esclavage serait, la liberté va venir, etc. Et à partir de ce moment-là, les nègres ont considéré très souvent qu'ils étaient libres. Notamment du côté de Saint-Pierre, c'est vrai, mais aussi un peu partout, au Robert, ici à la Pointe-la-Rose, de l'autre côté, à Sable-Blanc, enfin du côté de l'entrée de la passe vers l'idée qui est achetée depuis par monsieur, je ne m'en rappelle plus le nom du propriétaire actuel, mais enfin bon, entre le 25 mars, entre la fin du mois de mars et le 22 mai, il y a eu des quantités de mouvements dans toutes les communes, notamment dans une commune comme Casse-Pilote, où on a expulsé le maire. C'est-à-dire que bon, le maire, qui était un béquet particulièrement récalcitrant, ou contenait pour particulièrement récalcitrant, on a expulsé de la commune. Et il n'a jamais pu remettre les pieds à Casse-Pilote. Bon, au Carbet, à Saint-Pierre et au Prêcheur, il y a eu le même problème, etc. Et ça a été extrêmement important, évidemment, dans la vie publique ici, au point que le gouverneur de la Martinique a été obligé de publier le 23 mai, un décret disant que l'esclavage était aboli. Et on a dû modifier le décret du 27 avril, qui est arrivé ici le 4 juin, ici, on a dû le modifier. Bon, je crois que j'ai publié quelque part à la fois l'original et le truc modifié, effacé, pour préciser que l'esclavage était aboli le 23. Bon, à la Guadeloupe, un petit peu la même chose, parce que le gouverneur, le bateau passé par la Martinique avant d'aller à la Guadeloupe, a été la même chose. Mais en décembre, l'esclavage sera aboli à la Réunion en décembre. Ce sera aboli en Guadeloupe à l'époque. À l'époque, ce sera aboli en juillet. L'esclavage devait être aboli 2 mois après la promulgation du décret du 27 avril. Bref, il me semble que c'est des mouvements importants. Il ne faut pas négliger ça. Et je ne crois pas avoir jamais négligé ça. Mais je considère que la chose fondamentale, c'est le fait que les Français, forçant le 27 avril, ils prennent un décret abolissant l'esclavage. Alors, pourquoi je dis c'est important? J'ai eu l'occasion de vérifier, notamment dans les îles voisines, les îles à la Barbade, à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Trinidad, etc., où l'on fête l'abolition de l'esclavage à partir de la date de l'abolition par le gouvernement britannique, par les communes, par et le gouvernement britannique. Bon, c'est une réalité. Les Anglais, qui sont, toutes les îles sont indépendantes, elles fêtent l'esclavage, non pas à la date de, où il y a eu une révolution chez eux, où il y a eu un nuque chez eux, mais à partir de 1935, entre 35 et 38, l'abolition, elle était progressivement, parfois d'ailleurs de 35. Bon, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça ne les a pas empêchés d'être indépendants, ça ne les a pas empêchés de résoudre le problème national chez eux. Mais, bon, aussi bien, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ces îles. On m'a invité comme prof d'histoire, enfin, j'ai dit, en la réunion des profs d'histoire de la Caraïbe, ça se réunissait quelque part depuis la Havane jusqu'à Trinidad. Enfin, bon, le dernier truc à quoi j'ai participé, je pense que c'était à Margarita ou un truc comme ça. Et, bon, chaque année, au mois d'août, j'allais là. Ce qui m'emmerdait d'ailleurs, parce que c'est la période de la course de Yol.
Alors, Édouard de Lépine, c'est important qu'on rentre dans les détails. Vous nous avez brossé globalement votre idée en partant de cette date qui, pour vous, est celle qui est fondamentale, celle du 27 avril.
Oui.
D'accord ? Et qui, dans une certaine mesure, s'oppose à celle du 22 mai. Même si vous dites...
Il ne s'oppose pas. Pourquoi s'opposerait ? Pourquoi, à quel titre ? Il ne s'oppose pas. Les Français ont décidé d'abolir l'esclavage dans les colonies, mais ça suppose l'organisation du travail après, etc. Enfin bon, il fallait bien préparer ça.
Oui. Mais quand on a un certain nombre de mouvements nationalistes,
oui,
qui, disons, j'ai même du mal à employer le terme, vous me direz s'il est juste, mais qui montent en épingle le 22 mai,
oui,
dans le cadre justement... presque de la
naissance, pas le 23 mai d'ailleurs,
oui,
l'abolition,
oui,
c'est le 23.
Qui est presque la, comment dire, la, une date qui serait à l'origine de la nation martiniquaise, quoi. Enfin, c'est presque ça.
Oui, oui,
alors,
oui, oui.
Est-ce que c'est pas du montage politique?
Montage politique, je ne sais pas, non. Les gens ne peuvent pas voir l'abolition ou un événement important quelconque à 50 ans d'intervalle ou à 70 ou à un siècle et demi d'intervalle. Bon, de la même manière, c'est tout à fait naturel que les gens, bon, posent des problèmes en fonction de ce qu'ils ont vécu pendant cette période de 100, de 150 ans. Par conséquent, bon, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction. Il y a une réalité, bon, il faut tenir compte de cette réalité. Bon,
ça, vous dites qu'il y a une réalité, historique, et la réalité historique, c'est qu'il y a, pour vous, donc, plusieurs événements, plusieurs dates qui sont à l'origine de cela. Et quand on constate, oui, on entend, parce que vous entendez quand même des gens qui disent non, c'est pas Shelcher qui a libéré les Martiniquais.
Oui, oui, oui.
Alors,
quand
oui,
j'entends
alors...
ça, c'est un imbécile, et puis c'est tout. Oui. Je n'ai aucun respect pour les gens qui disent ça. Aucun. Aucun respect. J'ai du mépris pour les gens qui disent que bon, Shelcher n'a rien foutu. Bon. Et encore une fois, je les renvoie à celui qui a proposé en même temps que... c'est pas lui qui a proposé d'ailleurs, mais c'est Camille Darcier qui a proposé ça, de faire la fête nationale martinique le 22 mai, de faire ça à partir de 1970.
Oui. Enfin, mais comment vous expliquez, Édouard,
oui,
de Lépine,
oui,
que ce n'est qu'à partir de, disons, d'Armand Nicolas, que cette question se pose, quoi.
Non,
c'est-à-dire
pas
que...
C'est Armand Nicolas, le discours de Césaire du 27 avril, je l'ai publié là, ce discours, le discours du 27 avril 1948, il parle aussi du 22 mai. Il parle du 22 mai. Mais c'est vrai qu'à partir de 1960, c'est-à-dire, me semble-t-il, je n'étais pas ici entre 1950 et 1960, mais en tout cas, disons que de 1946... De 1945 à 1950, c'est-à-dire, bon, j'ai fêté le 27 avril comme tous les militants communistes, bon, défilant, provoquant le préfet, bon, tournant la tête de l'autre côté, bon, quand on faisait le 27 avril, par exemple à partir de 48.
Oui, bon. Sauf qu'Armand Nicolas, lui, au bout d'un moment...
Non, Armand Nicolas,
parce que vous êtes bien, vous êtes Édouard de Lépine, Édouard de Lépine, vous êtes bien au courant qu'il y a eu tout un courant qui a été monté autour...
C'est pas Armand Nicolas qui a monté ça. Armand Nicolas, j'étais au PC à l'époque. Bon, ça a été des gens comme Cabor Masson, disons, le premier nationaliste martiniquais que j'ai connu, personnellement. Bon, il a commencé ça, peut-être, dans les années 60. Bon, il y avait quelques étudiants au quartier latin à partir de 1956, quand moi je laissais pratiquement le quartier latin, qui commençaient à parler de ces questions-là. Il y en a un qui est maintenant... comment il s'appelle déjà, j'oublie, le nom...
Ça nous reviendra.
Oui, le nom reviendra. Il y a quelques étudiants, il y avait... Donc
quelques intellectuels martiniquais, quoi.
Oui, des intellectuels martiniquais, effectivement, qui, à partir de 56-57, ont commencé à poser des problèmes. Et c'est surtout à partir de 60, surtout, je pense, à partir de 60, les gens... on est en pleine guerre d'Algérie, hein, il ne faut pas oublier ça. C'est 56-62. Les Martiniquais qui refusent d'aller servir en Algérie, etc., bon, à partir de 56-57... Oui, à partir de 56, quand ça devient obligatoire.
Oui, mais Édouard de Lépine, est-ce qu'on peut dire que cette question du 22 mai serait une construction des nationalistes martiniquais?
Oui, bien sûr, c'est une construction des nationalistes martiniquais. Bon, c'est leur droit. Je veux dire que, j'ai aucune qualité pour interdire à qui que ce soit.
Mais vous êtes vous-même un nationaliste?
Non, j'ai jamais été véritablement nationaliste. Je suis rentré au PPM en me considérant comme un socialiste, et en même temps comme un patriote martiniquais. Mais l'idée de patrie martiniquaise, de trucs comme ça, je m'en foutais quand j'avais 18 ans. Moi, j'étais un militant communiste. Et c'est la révolution socialiste, c'est ce qui me paraissait le but. C'était bon, quand on m'a foutu la porte du PC en 1971, moi j'avais pris position en 1968 au 4e congrès du parti pour l'indépendance. Et bon, mais j'étais indépendantiste, mais j'étais prêt à aller.
Est-ce que vous faites une différence entre indépendantiste et nationaliste?
Mais évidemment.
Alors dites-nous.
Comment?
Dites-nous, quelle différence vous faites?
Le PPM est un parti nationaliste. Et le PPM est un parti autonomiste, en même temps pour l'autonomie. Et le MIM est un parti pour l'indépendance, enfin, en tout cas.
Pour être pour l'indépendance, il faut être nationaliste, quand même, Édouard de Lépine.
Oui, il faut être nationaliste, mais enfin, les autonomistes sont aussi nationalistes, enfin, à mon avis. En tout cas, moi, j'ai accepté en 1982, me semble-t-il. En octobre 82.
Mais vous, en tant, disons, que nationaliste, en tant que...
Non, dans la socialiste.
Disons, dans cette mouvance de gauche,
oui.
Vous pourriez très bien considérer, effectivement, que le 22 mai... C'est...
Mais j'étais militant indépendantiste avant d'être PPM, avant d'être nationaliste. En 1968, quand j'ai pris position en décembre 68 au 4e congrès du PC pour l'indépendance, j'étais tout seul à l'intérieur. Enfin, tout seul. Bon, il y avait peut-être deux ou trois types avec moi, mais enfin, qui n'osaient pas prendre position publiquement pour ça. Mais bon, j'ai été foutu à la porte du comité national, du comité central du PC en 1968 parce que j'étais indépendantiste, mais j'étais absolument pas un nationaliste. N'importe quoi sauf ça.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites Voilà une construction qui a été faite, une construction intellectuelle presque, hein,
Oui.
mais...
Intellectuellement, je sais rien. Politicienne. Politicienne, c'est tout. Bon, se distinguer d'abord du PC, à l'époque, ça faisait bien. Il fallait pas qu'on confonde le PC et puis les nationalistes, etc. Bon, y compris à l'époque de l'UJAM, où il y a eu des militants. En 1963, il y avait des militants nationalistes à l'intérieur de l'UJAM. Ils étaient très peu nombreux, mais enfin, ils étaient essentiellement d'ailleurs ceux de Paris.
Alors, nous allons rentrer dans l'argumentation qui vous permet de,
Oui.
disons, de vous adosser à votre thèse. Vous dites, notamment dans votre livre, c'est inscrit, vous dites, prenez le cas du Brésil,
Oui.
l'esclavage, c'est 40 ans après.
Oui.
Prenez le cas de quel autre pays, c'était 20 ans après.
Ben, non, aux États-Unis,
Les
et puis
États-Unis.
après 3 ans de guerre.
Et vous dites que finalement, donc, la question de l'arrêt de l'esclavage, c'est une constellation de dates.
Oui, mais enfin, bon, chaque pays voit la date. Hein, les Cubains ont fait une petite guerre. La guerre de Chiquita, comment ils appellent ça, la petite guerre. Bon, en 76, 78, bon, mais ils ont aboli l'esclavage après. Bon, l'esclavage a été aboli bon, au Venezuela ou en Amérique latine d'une manière générale, à part le Brésil, qui était le dernier pays d'Amérique latine à abandonner l'esclavage en 88, bon, c'est Bolivar, c'est les gens qui sont.
1888, hein.
Pardon?
1888.
Au Brésil, c'est 1888. Oui, mais l'esclavage a été aboli au Venezuela, bon, tous les pays d'Amérique latine pratiquement, avant le Brésil, ça a été le dernier pays à abolir l'indépendance en Amérique, à abolir l'esclavage en Amérique latine.
Édouard de Lépine, une fois que, disons qu'on sera revenu sur la vérité historique, hein, qui consiste à dire, voilà, le décret est arrivé à telle date, à l'Assemblée nationale, il s'est passé telle chose à ce moment-là qui aura permis de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la question de l'esclavage, c'est un mouvement global, quoi, en fait.
Mais non, ça veut dire que la question de l'esclavage, c'est une
Enfin, de
question
l'abolition, j'entends bien, de l'abolition, j'entends bien,
la
de
question de
l'abolition de
l'abolition,
l'esclavage.
bon, c'est une question essentiellement politique depuis bon depuis les années depuis 48-51, toute la période entre l'abolition 48 et puis 51, l'arrivée de l'Empire 52, l'arrivée de l'Empire du Second Empire de Napoléon III. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est une affaire politique, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. En tout cas, l'histoire de l'abolition. Hein, il y a une interprétation. Bon, mais les nationalistes sont libres de prendre l'interprétation qu'ils veulent. Moi, je suis aussi libre de les envoyer promener, de dire que je n'ai rien de commun avec eux.
Et aujourd'hui, par rapport à toutes ces dates,
Oui.
c'est quoi votre
Non,
conviction profonde?
mon truc, j'étais assez content de voir le président Macron décider que bon, la date d'abolition qu'il aurait mérité d'être célébrée, c'est le 27 avril, c'est tout.
Ça vous amuse presque.
Ça ne m'amuse pas, non. Moi, j'ai été comme tout le monde. Hein, bon, quand le 22 mai, enfin, j'ai organisé, en tout cas, j'encourageais les élèves, mes élèves au lycée, à faire la grève pour le 22 mai, pour avoir un jour de vacances le 22 mai. Vous savez, j'étais le premier, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y en a d'autres après qui l'ont fait. Mais je crois à partir de 1960, à partir de. Surtout à partir de 1962-63, chaque année aux vacances de Pâques. C'est-à-dire jeudi saint, vendredi saint, samedi gloria, dimanche de Pâques, et parfois même le lundi. J'emmenais mes élèves sur la route de l'esclave romain. Enfin, j'emmenais d'abord, on allait camper dans une maison, maison de repos, mais enfin, c'était une maison spéciale qui était construite pour les vacances, pour les jeunes, etc. Au Morne Rouge, par un type qui était remarquable, qui s'appelait Nestoré, qui était le maire du Morne Rouge. Il nous logeait gratuitement, il nous nourrissait gratuitement pendant 3 jours. Et le jeudi saint, vendredi saint, samedi gloria, on allait le premier jour au garde de la falaise, le deuxième jour à la montagne Pelée, le troisième jour au prêcheur, enfin sous la route des esclaves. J'ai fait ça pendant 5-6 ans au départ, jusqu'à ce qu'il y ait un petit accident, banal d'ailleurs, le gosse qui s'est tordu un petit peu le pied. Et bon, à l'époque, c'est des questions de sécurité. On a dû arrêter ça en 69-70, peut-être que certains camarades ont pu prendre ça après. Mais j'allais, après, avec mes camarades du GRS, faire le pèlerinage du 22 mai, régulièrement.
Oui. Alors, Édouard de Lépine, compte tenu de tous ces éléments-là que vous nous dites et de l'attention que vous nous attirez sur cette diversité de dates, quels sont, à votre avis, les conclusions et les enseignements qu'il faut tirer de cette date du 22 mai pour la construction de la Martinique aujourd'hui?
Je ne sais pas si le 22 mai, c'est la date la mieux choisie, la meilleure, pour résoudre les problèmes. J'ai aucune idée. En tout cas, j'étais pas d'accord avec le PPM en 1970. J'étais pas au PPM, j'étais au PC. J'étais encore au PC quand le PPM a décidé de faire du 22 mai la date, la fête nationale de la Martinique. Camille m'a invité un petit peu comme provocateur. Le 22 mai 71 exactement. Le jour du 22 mai 71, à venir dire au parti ce que je pensais sur ces questions-là, j'ai expliqué ça sans problème, et nous avons eu des discussions pendant une vingtaine d'années, plus que ça, Camille est mort en 2006, et donc on a continué pendant une trentaine d'années donc à discuter de ces problèmes-là.
Ouais. Mais l'enseignement pour aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui...
L'enseignement pour aujourd'hui, c'est l'unité du peuple martiniquais. L'unité du peuple martiniquais. Je crois qu'il faut que les Martiniquais se soudent littéralement. Je crois que c'est la conclusion à laquelle je suis venu dans les derniers bouquins que j'ai faits. J'ai beaucoup insisté. Y compris dans le bouquin que j'ai écrit pour... Camille Dancière, hein, hommage à un grand Martiniquais, Camille Dancière. J'ai publié ça en 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus, soit dit en passant. En 2008-2009, j'ai publié ce truc-là. Il y a là-dedans une photo, j'ai vu ça la semaine dernière, dans un hebdo entier. La photo qui est là, avec M. Bernard Ayotte, Maurice Antiste, Césaire, les fils Ayotte et de Lucie. J'ai rencontré un jour M. Ayotte dans la bibliothèque, à la librairie Alexandre. Je l'ai rencontré à la librairie Alexandre. Je lui ai dit que je publiais un bouquin sur Camille, mais que j'avais une très vieille photo de Fossanti qui était un peu abîmé, il y avait une branche derrière, devant le visage de Camille, en tout comme ça. Et je lui ai demandé s'il avait une photo. Et c'est comme ça que je l'ai connu. En tout cas, c'est comme ça que je suis entré pour la première fois dans ce qui est devenu aujourd'hui cette bibliothèque de la plantation, l'habitation Clément. L'habitation Clément, mais à l'époque, c'était à CGBH à côté de...
À Cajou, quoi.
À Cajou, voilà. Et c'est comme ça que je suis entré là-dedans, et j'ai découvert quantité de trucs dans les photos, dans le texte de Courbaril, qui me paraît un texte excellent. Je l'ai publié d'ailleurs, je crois que probablement c'est la première fois qu'on l'a rendu public. C'est le manuscrit de l'intervention de Césaire à la plantation du Courbaril en 2001, en décembre 2001, autant que je me rappelle, 17 décembre, je crois.
Et vous avez l'impression, Édouard de Lépine, quand vous regardez l'actualité aujourd'hui, quand vous voyez comment les partis se déchirent, comment le PPM, le MIM, quand vous voyez tout ça, vous pensez qu'on est parti pour l'unité nationale, là?
Non,
enfin, pour l'unité.
Non, malheureusement, bon, on ne semble pas s'orienter sur ça, parce que j'espère qu'il ne faudra pas attendre un accident quelconque, un accident historique, un truc quelconque pour faire ça. Mais je pense que l'idée fondamentale de Césaire est pas, c'est pas une idée qui est née en 2001 avec la plantation du gros baril. Mais c'est une idée césariste par excellence, depuis 35 jusqu'à... je suis en train de publier, enfin je viens de recevoir les deux derniers volumes, le quatrième et le cinquième volume des écrits politiques de Césaire. J'ai envoyé la dernière correction il y a une semaine ou deux. Toute l'œuvre de Césaire, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de publier ces trucs-là, à cette époque-là, quand j'ai décidé, sinon de finir avec la politique, mais enfin de me consacrer davantage aux écrits politiques de Césaire en 98, je pense. Je suis allé à la mairie on m'a rapporté ça ces jours-ci. Je me suis dit, je vais d'abord m'occuper de publier des trucs, enfin.
C'est ça. Alors, Édouard de Lépine, écoutez, nous sommes très heureux, en tout cas, d'être venus une fois de plus chez vous. Pour vous écouter sur cette question du 22 mai, puisqu'on sait que c'est quand même, somme toute, pour la Martinique, pour les Martiniquais, une date importante. Hein. Vous allez faire quoi ce 22 mai, vous?
Non, d'abord parce que je suis en mauvais état, vraiment. Et depuis quelque temps, je peux malheureusement pas faire grand-chose. Il y a un truc de radio Nord-Atlantique qui m'a invité là.
Nord FM.
Pardon?
Nord FM.
Nord FM, oui, je crois qu'ils m'ont invité, mais vraiment, je peux pas. je suis un bêtise, comme on dit. L'âge, c'est vrai. 86 ans, c'est pas. J'ai proposé qu'on fasse appel à celui que vous allez voir tout à l'heure, là. Gilbert Pagot. J'ai demandé, j'ai dit à la fille de téléphoner à Gilbert, peut-être.
Il sera plus disponible.
J'imagine, il est beaucoup mieux, en tout cas, que moi, physiquement.
Très bien. Eh bien, écoutez, Édouard de Lépine, merci. Et puis, on se retrouvera, puisqu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à découvrir dans votre bibliothèque, que finalement, je finis par prendre goût. Par être là et à vous écouter. En tout cas,
oui,
ça me fait plaisir.
Non, enfin, bon, je veux dire, c'est vrai, ce rayon-là, c'est l'esclavage en général. Là, c'est l'esclavage d'Amérique latine. Celui qui est au fond, c'est l'esclavage dans les îles anglaises. Les cartons qui sont là, c'est l'esclavage en général. Et par ici, c'est l'Afrique. par ici chez Cézanne. Hein? Mais bon, il y a de quoi, enfin en tout cas,
De quoi faire.
de quoi s'intéresser. Bon, malheureusement, ce n'est pas le meilleur moment pour moi. Depuis quelque temps, je vieillis assez mal.
Très bien. Ok, eh bien merci. En tout cas, il y a des vins qui s'améliorent avec le temps et je suis très content en tout cas de vous avoir entendu aujourd'hui. Merci Édouard de Lépine, à très bientôt.
À très bientôt.